Réponse à vos réactions, questions et suggestions avec l'invité d'Okapi Service.
Le taux d'approvisionnement en eau potable reste faible à travers toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Bon nombre des Congolais recourent aux eaux des puits, des rivières et du fleuve pour boire ou pour d'autres besoins de ménage. Le faible taux de couverture en eau potable conduit souvent à une situation de santé publique marquée par des maladies diarrhéiques, notamment le choléra qui continue à faire des ravages à travers le pays. Alors, comment promouvoir l'accès à l'eau potable? C'est la question que nous posons à nos invités. Nous commençons par M. Richard Matendo. Lorsqu'il est difficile d'accéder à l'eau potable, qu'est-ce qu'il faut faire?
Merci beaucoup, Jody, pour la question. C'est un privilège pour nous de venir ici à Radio Okapi et parler de ce sujet si important. Comment promouvoir l'accès à l'eau potable? C'est une question complexe, mais je peux dire de manière synthétique qu'il y a plusieurs étapes pour avoir de l'eau potable. La première chose, c'est que d'abord, il faut la rechercher pour la trouver là où elle se trouve. Et deuxièmement, lorsque vous l'avez trouvée, il faut la capter. Et après l'avoir captée, il faut la stocker. Et quand on l'a stockée, pour la rendre potable, il faut la traiter. Ça, c'est une autre étape importante. Mais quand on l'a traitée, il faut qu'on se rassure qu'elle est effectivement potable. Il faut l'analyser. Et c'est seulement après cela que l'on peut la distribuer vers les utilisateurs. Et lorsqu'on l'a distribuée, il faut s'assurer aussi qu'on la préserve. Parce que ça aussi, c'est autre chose. On peut avoir utilisé, mais si on ne la préserve pas, elle se perd. Donc, il y a plusieurs niveaux où on peut intervenir pour arriver à accroître l'accès à l'eau potable pour une population. Donc, il faut voir des situations spécifiques pour voir, dans cette situation spécifique, quel est le problème? À quel niveau il faut intervenir pour accroître l'accès à l'eau potable? Donc, il n'y a pas une réponse générique par rapport à cela.
Mais dans les milieux où les gens ne peuvent pas, peut-être qu'ils ont déjà recherché l'eau potable, ils n'ont pas trouvé, et ils ne peuvent pas capter d'eux-mêmes, parce que peut-être que la régie des eaux n'est pas là. Alors, à ce moment-là, les gens recourent aux eaux des puits, aux eaux des rivières. Alors, comment maintenant traiter cette eau-là pour qu'elle soit potable?
Oui, merci beaucoup pour la question. Effectivement, l'eau de pluie en elle-même, lorsqu'elle descend des nuages, elle est potable. Mais quand elle traverse tous les espaces, l'air, le toit de la maison, etc., à la fin, elle n'est pas vraiment aussi potable que cela. Et il y a des techniques qui sont connues pour arriver à rendre une eau potable dans ces conditions-là. Et il y a, par exemple, on peut la traiter par ébullition. Ça, c'est une possibilité. On peut la traiter par chloration. Il y a des techniques pour cela. On peut la traiter par le filtrage, etc. Le filtre, il y a plusieurs types de filtres. Donc, il y a plusieurs techniques qu'on peut utiliser pour traiter l'eau. Mais il faut identifier dans le milieu où vous êtes quelle est la technique qui est la moins chère par rapport à vos moyens, par rapport à votre milieu. Quelle est la technique qui est la plus efficace? Et aussi, quelle est celle qui est la plus facile à réaliser? Donc, il faut tenir compte de tout ça.
De plus en plus, on vend des purifiants d'eau dans des pharmacies ailleurs. Et je crois que les gens recourent également beaucoup à ces genres d'éléments pour purifier l'eau.
Effectivement. Et un de nos projets que nous appuyons au niveau de l'USAID, par le canal de l'Association Santé Familiale, ASF, fait le marketing social des purifiants d'eau. Et ce sont des produits qui sont vraiment, vraiment recommandés. Ils sont efficaces. Et dans le milieu où ils sont vendus, c'est vraiment très encouragé de les utiliser. Mais il faut savoir comment les utiliser.
Comment les utiliser.
Comment les utiliser et quand les utiliser. Ça, c'est très, très important.
Alors, vous êtes expert au programme Eau, Hygiène et Assainissement à l'USAID. Qu'est-ce que vous faites dans... Parlez-nous de ce programme. Qu'est-ce que vous faites exactement?
En fait, c'est l'activité dont je m'occupe, c'est intégré au niveau des activités de santé, parce que je suis médecin. Et donc, je m'occupe aussi, en plus des autres choses qui sont à ma charge, je m'occupe aussi du volet eau, hygiène, assainissement. Et là, nous travaillons en partenariat avec le ministère de la Santé publique pour accroître l'accès à l'eau potable et aussi l'accès à des latrines améliorées, beaucoup plus en milieu rural. Et donc,
on parle souvent d'un programme de village assaini.
Oui, exact. Ouais. Donc, c'est ce programme-là. Nous appuyons le programme village assaini. Nous l'appuyons financièrement. Nous appuyons aussi techniquement la mise en œuvre de ce programme-là. Donc, on travaille avec des partenaires. Nous sommes avec UNICEF. Nous sommes avec le projet de santé intégrée, qu'on appelle aussi ProSani. Et actuellement, nos activités sont focalisées dans 4 provinces. Particulièrement le Katanga, le Sud Kivu, le Kasaï occidental et Kasaï oriental. Et là, donc, nous avons focalisé sur les 80 zones de santé que nous appuyons plutôt, compte tenu des moyens limités. Pour le moment, nous focalisons nos interventions sur 19 zones de santé depuis l'année qui venait de passer. Et là, donc, on travaille pour accroître, travailler ensemble avec la population pour identifier leurs besoins, analyser leurs demandes et mettre en œuvre un plan pour approvisionner les villages.
Les villages, oui. En eau potable.
En eau potable et aussi accroître l'accès aux latrines améliorées et tout cela avec aussi l'amélioration des conditions hygiéniques.
Bien. Alors, Monsieur Dieudonné Mbouka, vous êtes expert du programme Aliments. Vous occupez également de l'eau. Dites-nous, qu'est-ce que vous faites dans ce programme-là?
Oui, au fait, je dis le programme Aliments pour la paix est en train de s'occuper de la sécurité alimentaire. Mais en fait, il y a 3 composantes dans la sécurité alimentaire. Mmh. Il y a la disponibilité des aliments, il y a l'accès aux aliments et il y a l'utilisation des aliments. C'est dans ces derniers volets que le programme Aliments pour la paix intervient dans le sens d'aider la population à avoir une eau potable. Parce que, comme vous l'avez dit, et mon collègue l'a si bien dit avant que je ne puisse prendre la parole, les enfants sont les plus vulnérables avec les maladies diarrhéiques et autres qui viennent de mains sales. Donc,
surtout le choléra, on parle surtout de plus en plus de choléra à travers le pays.
Bien sûr. Voilà pourquoi les programmes Aliments pour la paix s'est dit, comme nous sommes en train de chercher à avoir une sécurité alimentaire, quelqu'un qui utilise de la mauvaise eau ne pourra jamais avoir son statut nutritionnel amélioré. Mmh. Voilà pourquoi, dans notre programme, nous venons avec des activités qui consistent à fournir aux populations les puits améliorés, réhabiliter les sources, et aussi nous avons un très grand programme qui est en train d'être réalisé au niveau de la ville de Goma.
Oui, dans la ville de Goma, il y a des sérieux problèmes d'approvisionnement en eau potable.
Il y a un très grand sérieux problème d'approvisionnement en eau. Parce que depuis 2002, il y avait eu l'éruption volcanique de Nyiragongo qui a détruit à peu près 40% du réseau de distribution de la régie des eaux.
Et dans la ville de Goma.
Dans la ville de Goma. Alors, ce qui fait que aujourd'hui, quand vous circulez dans la ville de Goma, vous verrez qu'il y a des gens qui circulent à vélo, soit les vélos
les tchoukoudou,
en bois,
oui,
qu'on appelle tchoukoudou,
oui.
Et ils sont en train d'aller vendre de l'eau qu'ils prennent, qu'ils achètent à des points de distribution de la régie des eaux et qu'ils amènent vers les endroits où les volcans avaient détruit les réseaux de distribution de la régie des eaux. Mmh. Alors, c'est dans ce cadre-là que Aliments pour la paix, en partenariat avec Mercy Corps, a commencé ce travail depuis 2008 à refaire ces réseaux de distribution de l'eau. Et on a déjà travaillé sur 16 kilomètres et je crois tous les habitants de Goma sont en train d'attendre impatiemment quel jour on va lancer, l'eau va couler dans les robinets publics qu'on est en train d'installer.
Mmh. Alors on peut retenir que dans les endroits où il n'y a pas la régie des eaux n'est pas présente, il n'y a pas le réseau d'addiction d'eau de la régie des eaux, on peut créer un autre réseau ou faire le forage ou entretenir des sources.
Hein. Exactement, c'est ce que nous sommes en train de faire. Et au niveau de la province du Sud Kivu, nous travaillons avec ADRA International, avec son partenaire World Vision, et ils sont en train de forer disons, creuser, parce qu'ils n'utilisent pas des moyens mécaniques. Mmh. Ils creusent le puits et ils font l'amélioration, ils font la réhabilitation des sources. Et au Katanga, plus précisément à Kalemi et Moba, avec Food for the Hungry, nous faisons aussi la même chose. Et ce qui est intéressant dans tout cela, c'est que quand nous faisons les réhabilitations des points d'eau, nous créons un comité de suivi de ces points d'eau-là. Et c'est très nécessaire parce que pour assurer
le comité est constitué des membres de la communauté.
Ouais. Les membres de la communauté, ils ont un président, ils ont des conseillers qui gèrent l'ouvrage qui leur est fourni. Mmh. Et avec ça, nous sommes sûrs que la pérennisation de l'activité va continuer, puisque en fait, c'est un besoin réel. Puisque quand vous intervenez dans un milieu rural où il faut identifier réellement les besoins, comme c'est un besoin qui se présente, la population elle-même prend soin de la protection de
cet ouvrage. Ouais. Comment promouvoir l'accès à l'eau potable? Vous avez des questions, des préoccupations? Appelez-nous au 081-890-6394. Nous avons déjà en ligne Freddy Kabamba de Lubumbashi. Alors, appelez-nous, n'hésitez pas, appelez-nous déjà au 081-890-6394.
Radio Okapi encourage les jeunes talents congolais. Auteurs, compositeurs, interprètes, une adresse mail est à votre disposition. musique@radiokapi.net. Envoyez vos chansons. Après sélection, elles feront peut-être partie de la playlist ou d'une émission de Radio Okapi. Faites-vous connaître, des millions d'auditeurs vont écouter votre musique. musique@radiokapi.net. Allez-y, on vous attend.
Comment promouvoir l'accès à l'eau potable? Freddy Kabamba, vous nous appelez de Lubumbashi. Bonjour.
Bonjour, monsieur Jésus Daniel Kachamé, notre invité, toute notre équipe de l'émission Capi Service.
On vous écoute.
Je m'excuse, s'il vous plaît. Avant de poser des questions à notre invité, je vais d'abord continuer. Monsieur Jésus, c'est que moi, je suis en train de regretter. Si vous passez dans les endroits-là, les Chinois travaillent et tous les étrangers travaillent, vous trouverez l'électricité. Et là, il n'y a pas la coupure. Mm-hmm. C'est comme ça. C'est bien, c'est comme on l'a garanti. Mais l'eau, c'est ça la vie. Pour faire l'eau, ça nous aide à se laver, à faire toutes les affaires, même à manger. S'il n'y a pas l'eau, on ne peut pas vivre. Mais ici, par rapport ici à Lubumbashi. Même si on nous montre dans des chaînes de télévision, on nous montre peut-être un robinet qu'on a fait. C'est rien, je vous dis. C'est rien, on n'a rien fait, on est en train de souffrir. Moi j'habitais là-bas, dans le niveau de 30 jeunes, c'est là que j'habite. Le mal qu'on faisait, si c'est autoroute, si c'est quoi maintenant, dans la route du Kashi, on nous avait privé à peu près 4 mois sans l'eau, sans l'électricité. Mm-hmm. Même les jours de francophonie qu'on voudrait d'abord voir des histoires qui passent, on nous avait freiné, mais vous trouverez les autres personnes qui travaillent, les étrangères, sont bien gardés, on lui donne tous les biens, mais si vous partez au niveau même des Zambies, même en Tanzanie, vous trouverez, et même les patriotes de ces pays, ce sont des gens qui sont en train de vivre assez bien de leur pays.
Alors, quelle est votre question maintenant, Freddy?
Oui, ça va, j'ai des questions à demander à notre invité.
Oui.
Je demande, si vous allez peut-être, ceux-là qui habitent au village, ils boivent l'eau des ruisseaux, là qu'il est en train de boire. C'est le même endroit qu'on est en train de se baigner, c'est le même endroit qu'on se baigne, c'est le même endroit encore qu'on puise l'eau de boire. Est-ce que là, il n'y a pas de danger? Deuxième question, ici encore à Lubumbashi, ce n'est pas très loin, l'endroit là qu'on appelle le Rush Mining, là, il y a des minéraux. Encore, on est en train d'exploiter là-bas les minéraux, mais les gens n'ont pas de robinet là-bas. Il y a que là qu'on appelle comme des Kishima, des puits. C'est fait que les gens épousent là-bas de l'eau. Il n'y a pas encore de danger parce que les minéraux là-bas, vous trouverez, c'est un désordre, monsieur Jésus. Merci beaucoup. Je m'arrête par là, c'est beaucoup.
Merci. Vous avez beaucoup de choses à dire, on a compris. Merci, Freddy. Edgar Lokamba nous appelle de Kananga dans la province du Kassai occidental. Bonjour, Edgar.
Bonjour, Jody. Bonjour, mes invités.
On vous écoute.
Oui, je vais poser une petite question.
Oui.
Après qu'on ait traité, par exemple, un bidon de 20 litres d'eau, pendant combien de temps on peut garder l'eau? Est-ce qu'on peut la continuer à boire même pendant un mois? C'est ça ma question.
Mais pendant combien de temps garder l'eau, l'eau qui a été traitée, est-ce qu'on peut le garder même pendant un mois? Bien, merci pour la question. Albert Mwananga, vous êtes à Kananga. On vous écoute. Bonjour.
Oui, monsieur, je dis c'est Albert Mwananga à Kananga. J'ai quelques infos qui passent à poser à notre invité. C'est un sujet vraiment très, très apprécié. Oui. Ici à Kananga, la majorité des personnes prennent toujours de l'eau de puits. Quand il pleut, vous voyez que ce puits-là devient, l'eau de puits de ce puits-là devient très rouge que jamais. Alors la population attend tout simplement quelques jours pour que l'eau devienne un peu vert pour aller puiser. Alors, à ce niveau, qu'est-ce qu'on peut faire quand on n'a pas encore eu le forage, le système de forage-là? Alors, sur le quartier de Kamaï où j'habite, au sein de la paroisse Saint-Alphonse, il y avait les forages qui nous fournissaient quand même les eaux potables ici.
Oui.
Alors, à un temps donné, nous voyons que ces forages ne fonctionnent plus. Nous sommes un peu totalement détruits à ce niveau. C'est pourquoi nous demandons à notre invité qu'on puisse mettre les mécanismes nécessaires pour accélérer le système de forage ici pour vraiment accéder à une eau potable, monsieur Jeudi.
Merci Albert.
Allô, je passe à une autre préoccupation, monsieur
Jeudi. Les autres attendent, oui. Allez-y rapidement.
J'ai quelques préoccupations, monsieur.
Allez-y rapidement.
Faut-il prendre nécessairement l'eau déjà bouillie et glisser quelques comprimés dans donc, cette loi est déjà éliminée, tous les éléments sont déjà éliminés. Comment expliquer à ces messieurs journalistes? Je me les répète vraiment. Et à la prochaine. Merci beaucoup.
Merci Albert. Winston Buhundu nous appelle depuis Isiro, en province orientale. Et docteur Kipasa est à Kikwit, dans le Bandundu. Winston, bonjour.
Bonjour Radio Kupi. Bonjour à tous les auditeurs et à notre invité.
On vous écoute.
Oui, bon, nous avons vraiment le problème de l'eau potable ici à Isiro. Parfois, nous les traitons avec les comprimés. Ma question est de savoir si on les traite comme ça. On peut les conserver pendant combien de temps?
Merci pour la question. Docteur Kipasa, vous êtes à Kikwit. Bonjour.
Bonjour Jody, bonjour à notre intervenant. C'est juste une petite contribution et ensuite une question. Je voulais dire ceci. À Kikwit, le problème d'eau, comme il a dit, c'est un problème spécifique. Il suffit qu'il y ait de l'électricité et il n'y aura plus de problème pour la distribution ou la desserte en eau potable. Mais ma question c'est, est-ce que tous les efforts, tous les projets qu'on est en train de préparer là avec l'USAID et le village ACI, est-ce que on peut mettre ça ensemble avec l'ancien système national d'hydraulique rural pour les milieux ruraux? Parce que là, c'est vraiment un grand problème pour la desserte en eau potable.
Merci docteur Kipasa, merci à tous ces auditeurs qui ont appelé pour poser des questions. Alors nos invités vont répondre. Commençons par Freddy de Lumbashi qui dit à Lumbashi, là où les Chinois travaillent, on leur donne l'eau et le courant en permanence, mais lui dans son quartier il n'a pas d'eau. Alors il pose la question de savoir l'eau des ruisseaux, est-ce que on peut souvent ils vont puiser l'eau des ruisseaux pour boire et en plus les gens font d'autres besoins avec cette eau, laver les vêtements et autre chose. C'est une eau, disons, qui est polluée. Alors, M. Richard Matendo, qu'est-ce qu'il peut faire par rapport à cette eau-là? Comment la traiter avant de boire? Et si on la prend de cette façon-là, qu'est-ce que peuvent être les conséquences?
Merci beaucoup, Jody, pour la question. Merci, Freddy, pour l'intérêt. Je pense que vous avez la réponse dans votre propre question, parce que vous avez posé la question de savoir si cette eau-là est potable. Elle n'est pas potable.
L'eau des ruisseaux.
L'eau des ruisseaux, vous êtes en train de... On fait les besoins là-dedans, on lave les assiettes là-dedans.
On lave les habits,
on se baigne là-dedans et puis on boit cette eau-là. Elle n'est pas potable. Et comme j'ai dit, il y a plusieurs méthodes que vous pouvez utiliser pour rendre cette eau-là potable. Mais vous devez voir qu'est-ce qui est disponible. Tout cela. C'est toute une émission que ça doit prendre pour parler en détail de chaque méthode, comment il faut la faire, quand est-ce que c'est indiqué, mais il faut explorer dans votre milieu quelles sont les méthodes qui sont disponibles.
Mais ce qui est facile à faire, c'est bouillir l'eau.
Ce qui est facile à faire, c'est bouillir l'eau. Mais bouillir l'eau, on dit que c'est facile, mais ce n'est pas toujours aussi facile que cela. Parce que ça demande du bois, ça demande du feu, ça demande du temps. Et quand vous allez bouillir, l'autre chose importante, c'est d'être sûr que c'est bien conservé. Parce que vous, si vous avez bouilli et que vous gardez dans un vase qui est ouvert et où les mouches tombent, où on accède avec les gobelets, avec des fourchettes, avec beaucoup d'autres choses, ce ne sera toujours pas possible. Donc, il y a plusieurs méthodes que vous pouvez utiliser, mais il faut voir celle qui est la plus appropriée, celle qui est disponible et facilement utilisable dans votre contexte.
Monsieur Dieudonné.
Oui, ce que je voulais juste ajouter par rapport à ce que l'ami a dit, est-ce que vous voyez, même quand nous faisons le puits et que nous faisons ou bien nous réhabilitons les sources, voilà l'importance d'avoir un comité de suivi de ces points d'eau. Parce que, effectivement, qu'est-ce qui se passe? On a amélioré l'approvisionnement en eau, mais les mamans viennent à ces points d'eau-là faire la vaisselle au même endroit où on est en train d'épuiser l'eau et prendre bain sur place, laver les enfants et tout. Et à ce moment-là, vous vous exposez déjà à ce que l'eau ne puisse plus être potable, comme on l'a dit. Donc, mais avec les comités, quand vous avez un comité qui est installé, c'est ce comité-là qui est chargé de mettre de la discipline. On dit, bon, ok, pour faire le lavage des habits ou la vaisselle ou je ne sais pas moi quoi, on aménage un petit endroit à peu près 15 mètres de là où se trouve le point d'eau, de façon que les gens puissent venir et faire leurs travaux comme il se doit. Donc c'est juste une petite contribution pour dire que c'est souvent, il y a toujours des petits problèmes qui interviennent dans la gestion des points d'eau.
Alors, M. Richard, rapidement, Freddy a parlé aussi d'un puits d'eau qui se trouve à côté d'une carrière minière. Il a parlé de Roachi Mining. Est-ce qu'il y a des dangers que cette eau soit contaminée?
Oui, il y a des dangers que l'eau soit contaminée, mais je crois que quand on parle de la qualité de l'eau, la potabilité, on essaie aussi de doser là-dedans certains produits qui peuvent être nocifs pour la santé. On peut aller très loin, ça dépend des moyens qui sont disponibles, mais ça dépend aussi de la régulation nationale. Mais un des produits qu'on doit chercher toujours, c'est l'arsenic. C'est celui qui est le plus dangereux. Donc on doit doser ça normalement avant de donner le produit, de faire accéder la population à cette eau-là. Et maintenant, par rapport au mining, il faut voir maintenant c'est quel minerai qu'il y a là-bas. Et il faut maintenant se concerter avec les services qui ont cette spécialité-là pour doser et voir quel peut être l'effet nocif de ces produits-là sur la santé de la population.
Voilà. Avant de continuer à répondre, il y a encore deux autres auditeurs qui sont en ligne. Ismaël Mumpoy nous appelle de Lubumbashi et Ogi Bendelo de Kikwit. Ismaël, bonjour.
Bonjour, je dis Gacha, bonjour à tous les auditeurs de la Radio Capi.
On vous écoute.
Ma première préoccupation, c'est de savoir quand est-ce qu'on peut déclarer qu'une eau est impotable. Et parce que ici à Lubumbashi, nous avons ce qu'on appelle communément du chima. Qu'est-ce qui se passe? La distance qui sépare une fosse septique et le chima en soi, ça peut être par exemple de 3 à 2 mètres. Comment notre intervenant, notre invité peut nous éclairer, nous donner une éducation sur cette situation? Et juste quand, à condition d'une eau potable, à quelle quantité par exemple de chlore on peut mettre dans un bidon de 20 litres et dans un village où, parce qu'une même eau est utilisée pour la lessive et une même eau est utilisée pour la boisson. Et quelles peuvent être les conséquences et les conditions de cette eau potable?
Merci Ismaël. Ogi Bendelo de Kikwit, bonjour.
Bonjour, aujourd'hui, Daniel Kachama, je salue aussi l'invité, y compris tous les auditeurs de la radio Capi qui me suivent en ce moment.
On vous écoute, quelle est votre question?
Ma question est de savoir, il y a d'autres confrères qui sont dans des recoins où la régie des eaux n'a pas de capacité de distribuer de son eau à ce côté-là. Alors je voulais savoir, nos frères là sont souvent, lorsqu'il pleut, ils se procurent de l'eau de la pluie pour en profiter. Alors je voulais demander, avant de consommer l'eau de la pluie, quels sont les produits ou comment préparer, donc quelle dose à établir dans des vases avant de consommer ces eaux-là de pluie, et ça doit durer, il doit prendre combien de temps une fois déjà mis des médicaments là-dedans? C'est ce que je voulais savoir.
Merci Ogi. Kamango, vous êtes à Lubumbashi, bonjour.
Oui, bonjour monsieur le journaliste, je m'appelle Vincent Kamango, je suis étudiant dans la faculté de sciences économiques. J'ai bien suivi notre invité qui vient de parler au plateau, mais malgré les précautions qu'il a préconisées concernant les traitements d'eau, ce n'est toujours pas efficace. Je donne la ville de Lubumbashi. La ville de Lubumbashi est gorgée de carrières minières. Vous savez bien que les taux de ce minerai sont en grande proportion dans l'eau que nous avons à Lubumbashi. Alors, s'ils utilisent peut-être le feu pour peut-être purifier l'eau, il peut tuer les microbes, mais il y a une grande concentration de ces minéraux dans l'eau. S'ils mettent des chlores, bien sûr, les chlores, ce sont encore des métaux qu'ils ajoutent dans l'eau. Vous trouvez bien avec moi que la meilleure façon de traiter cette eau, ça peut être... on peut préconiser, par exemple, la méthode de distillation d'eau. Ça peut être efficace pour éliminer ces métaux qui sont en grande concentration dans l'eau. Et cette méthode exige beaucoup de moyens. C'est pour cette raison que j'interviens en disant que non, malgré toutes ces méthodes qu'ils donnent, ce n'est toujours pas efficace pour une bonne distillation d'eau dans la ville de Lubumbashi. Merci beaucoup.
Oui, merci beaucoup pour cette intervention. Alors, revenons à Edgar de Kananga qui a dit, pendant combien de temps garder, par exemple, 20 litres d'eau après avoir purifié cette eau, on peut la garder pendant combien de temps et comment la conserver, Monsieur Richard?
Oui, donc toutes les méthodes ne sont pas égales et toutes les méthodes ne donnent pas le même résultat. Je donne juste un exemple, hein, peut-être juste pour calmer notre ami. Si vous prenez les comprimés d'Aquatab, qui sont généralement utilisés, sont des comprimés de 3,5 mg, quelque chose comme ça. On utilise pour l'eau qui est claire, parce qu'on n'allait pas utiliser pour l'eau qui est turbide, hein, qui est trouble. Et là, lorsque vous mettez un comprimé dans un litre, c'est connu qu'après 30 minutes, l'eau devient potable. Et cette eau-là peut être gardée même pendant 48-72 heures, elle reste potable. Donc, mais tout en vous rassurant, comme j'ai dit, que vous n'êtes pas en train de la manipuler d'une mauvaise manière pour y introduire encore des microbes. Donc la conservation est très très importante.
Est-ce qu'on peut garder cette eau-là même pendant un mois?
Un mois, je pense que ça serait même exagéré. Garder de l'eau pendant un mois et commencer à boire dans la même gourde, je crois que ce n'est pas... Un mois, c'est trop.
C'est
généralement,
trop,
on dit 48 à 72 heures pour cette eau-là, particulièrement avec l'aquatab. Donc, ça dépend d'un produit.
Albert de Kananga nous dit, à Kananga, les gens consomment l'eau des puits. Parfois, c'est une eau rouge qui n'est pas potable. Il dit, que faire dans ces cas? Et les forages, les systèmes de forage ne fonctionnent plus. Faut-il mettre des comprimés? Faut-il utiliser les comprimés pour purifier cette eau?
Oui, ça peut être une solution. Parce que c'est comme j'ai dit, selon que l'eau est claire ou trouble, la méthode utilisée pour la rendre potable est différente. Donc, avec de l'eau qui est turbide, ce qui est conseillé, c'est d'utiliser les sachets purs. C'est simple de dire comme ça. Ça peut avoir un autre nom, mais les sachets purs, connus, c'est vraiment bien positionné dans beaucoup des...
Est-ce qu'avec vos partenaires, dans le cadre de ce projet de l'USAID, vous mettez à disposition des consommateurs?
Effectivement, avec le projet ASF, à ma connaissance, ils sont présents dans beaucoup de provinces, inclus les deux Kassai, et en ville et en milieu urbain et périurbain. Donc c'est possible de se procurer, mais il faudrait maintenant demander aux gens qui vendent, parce que généralement ils sont instruits sur la manière de l'utiliser, donc ils ont aussi la responsabilité de vous dire comment vous pouvez l'utiliser, etc. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire pour de l'eau qui est turbide.
Monsieur Dieudonné Mbouka, vous avez suivi le docteur qui passe à l'Ekikwit a posé la question de savoir est-ce que vous pouvez travailler avec le service hydraulique rural pour implémenter des projets dans le cadre de traitement de l'eau potable.
Ce que je peux dire, c'est que les cycles de financement pour ce qui est du programme Aliments pour la paix, c'est un cycle de 3 à 5 ans. Donc ce qui fait que quand nous avons nos financements qui arrivent, nous faisons un appel d'offres, les gens viennent, les ONG et autres, et on fait une certaine compétition. Et après ça, nous travaillons avec eux pendant 5 ans. Donc, comme pour le moment, nous avons des financements qui ont commencé nous avions commencé par 2008 à 2011, un cycle de 3 ans. Maintenant, nous passons de 2011 à 2016. Donc, en fait, pour le moment, c'est un peu compliqué qu'on puisse avoir d'autres fonds dans ces domaines. Ouais, malheureusement.
Mais je pourrais juste compléter pour calmer docteur qui passe à ce sujet, parce qu'il a posé la question de savoir si on pouvait sur le programme Village École Assaini, vous pouvez travailler ensemble avec l'hydraulique rurale. Village École Assaini dépend du ministère de la Santé, hydraulique rurale dépend du ministère de l'Agriculture et Développement Rural. Effectivement, ils sont en train de travailler de plus en plus ensemble parce qu'on s'est rendu compte qu'il faut vraiment de la complémentarité. L'approche eau, hygiène, assainissement, c'est une approche multisectorielle. Et donc, et le secteur santé et le secteur hydraulique rural doivent travailler ensemble pour essayer d'étendre les services et renforcer l'approvisionnement.
Ismaël de Lumbashi pose cette question. Quand est-ce qu'on peut déclarer une eau potable? Et quelle quantité, par exemple, de chlore utilisée dans 20 litres d'eau, Monsieur Richard?
Bon, l'eau est potable. C'est comme j'ai dit... Ce que nous pouvons appeler une eau potable ici peut ne pas être appelé eau potable dans un autre milieu parce que plus la technologie évolue, plus il y a des exigences et plus le milieu est nanti, plus il y a des exigences par rapport à la potabilité de l'eau.
Oui.
Mais d'une manière simple, ce que je peux dire, c'est qu'une eau qui est potable, c'est une eau qui ne doit pas contenir des microbes pathogènes pour la santé. Ça, c'est de manière simple. Et deuxièmement, c'est une eau qui ne doit pas avoir des produits, des substances chimiques nocives pour la santé. Et maintenant, c'est dans chaque milieu, en fonction des standards définis, où on doit dire quel est le niveau acceptable, quel est le niveau qui n'est pas acceptable.
Et Ogui de Kikwit vous demande comment préparer l'eau de pluie avant de boire, comment traiter cette eau.
Oui, je crois qu'on a répondu à cela. Ça dépend. Est-elle claire ou est-elle turbide? Et c'est en fonction de cela qu'il faut choisir.
Il faut choisir.
Oui. Mais aussi, on peut aussi la bouillir. Ça, c'est une autre possibilité. Oui. Bon, il y en a qui se plaignent par rapport au goût quand on a bouilli et tout ça, l'odeur. Mais ça, c'est rien par rapport aux bénéfices de la santé, de boire une eau qui est potable, qui n'a pas de microbes.
Alors, pour terminer, monsieur Dieudonné Mbouka, vous êtes expert au programme Aliments. Et donc, les habitants de Goma peuvent espérer avoir une eau potable dans les jours, dans un bref délai.
Oui, nous sommes en train de nous battre. Et notre partenaire Mercico, qui travaille en collaboration avec... et la régie des eaux et le CICR, et ils sont en train de tout faire, de tout mettre en œuvre pour que ce projet qui a tant duré, parce que ça fait très longtemps qu'on est en train de se battre pour le finaliser, et nous espérons que dans les prochains mois, nous pourrons avoir de l'eau à Goma. Et cette fois-là, nous vous tiendrons informés. Comme ça, Radio Okapi pourra descendre sur place, interroger le public qui aura accès à cette eau dans les robinets.
Et Monsieur Richard, maintenant, dans le cas du village Assaini, il y a des projets qui sont en train d'être menés en ce moment.
Oui, effectivement, il y a des projets qui sont en train d'être menés. Le premier projet, c'est avec UNICEF. Et là, nous sommes en partenariat avec UNICEF depuis 2009. Et maintenant, nous allons commencer l'approvisionnement en eau et l'amélioration de l'assainissement, l'utilisation des latrines et tout ça, l'hygiène, dans deux zones de santé. Ça va commencer d'ici là, c'est une zone de santé au Katanga et une autre zone de santé au Kasaï oriental. Et à part cela, nous travaillons aussi avec le projet de santé intégrée, qui est un grand projet qui prend beaucoup d'aspects techniques, mais où l'eau, hygiène et assainissement aussi est inclus. Et là, eux, ils vont se focaliser dans 9 zones de santé. Le but avec cet appui-là, c'est d'arriver à couvrir au moins 80% des villages dans ces zones de santé-là, que 80% de la population de ces villages ait accès à l'eau potable et utilise des latrines améliorées. C'est un défi, mais je crois qu'on peut y aller progressivement et avec la contribution de tous et l'implication surtout de la communauté et une bonne gestion et un bon plan de mise en œuvre. Je crois que ça serait quelque chose.
Merci M. Richard Matendo. Je rappelle que vous êtes expert au programme eau, hygiène et assainissement à l'USAID. Et merci également à M. Dieudonné Mbouka, expert au programme aliments à l'USAID. Merci d'avoir répondu à notre invitation et à la prochaine.
Merci beaucoup. Merci de nous avoir invités. À la prochaine.